Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. tourismehaut-richelieu.com.
Ouais, attends. Silence.
Il y a un avion.
Non, oui, mais... ouais.
Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaires sonores « Le réel à l'écoute ». Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel.
Mouzi-chivoué ! C'est pourquoi ça ?
Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté pendant tout le mois d'août. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
Vous écoutez une émission de Choc.ca.
Bienvenue à cette édition du 27 août 2020 des Apatrides Anonymes sur les ondes de Choc.ca, votre émission d'actualité d'ici et d'ailleurs sur les enjeux touchant à l'immigration, à la sécurité nationale et au racisme. Marie-Ève à l'animation, bien heureuse de vous retrouver après une pause bien méritée. L'édition d'aujourd'hui a encore une fois été préenregistrée, mais l'équipe de Choc nous a enfin confirmé un retour en studio en septembre. La prochaine émission devrait donc être la dernière en mode confiné. Yay! Donc, au programme aujourd'hui, Simon nous transporte en France et nous a aussi préparé une citation raciste bien de chez nous sous forme de devinette. Aux actualités nationales, Mathieu, lui, fait un suivi sur le sort de milliers de réfugiés parrainés par des Canadiens et dont l'arrivée a été suspendue par les restrictions de voyage imposées en réponse à la pandémie. Et il nous parle aussi de racisme systémique au sein de la Défense nationale. Quant à moi, je vous reviens avec l'agenda antiraciste et plein de brèves sur l'actualité récente. Mais avant de céder le micro à Mathieu, la bonne nouvelle du jour! Après 10 ans de procédures judiciaires et de négociations entre la Commission des services policiers de Toronto et les représentants d'environ 1100 personnes arrêtées pendant le sommet du G20 à Toronto en juin 2010, un accord de 16,5 millions de dollars a été conclu. Le règlement à l'amiable prévoit que tous ceux et celles qui ont été arrêtés vont avoir droit à une indemnité variant de 5 000 à 24 700 $ selon ce qu'ils ont vécu personnellement. Aussi, toutes les personnes qui ont été arrêtées à tort vont voir leur casier judiciaire effacé. Rappelons que la police de Toronto avait réagi aux manifestations en encerclant pendant des heures de très larges groupes de centaines de manifestants un peu partout au centre-ville, puis en transférant la grande majorité des personnes arrêtées dans un centre de détention provisoire où plusieurs ont subi des mauvais traitements et des abus. Sur ce, allons retrouver Mathieu, qui a réalisé une longue entrevue avec Mustapha Hanaway, organisateur communautaire au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants, à propos de la lutte sur les employés de Dollarama pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail.
Bonjour. Pour le bloc entrevue, on a contacté Mustapha Hanaway, organisateur communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, pour parler de la campagne par rapport à Dollarama. Oui, les super magasins, entrepôts et centres de distribution Dollarama. Donc, le CTI qui appuie les travailleurs et travailleuses en grande majorité migrants, migrantes, depuis le début de cette lutte il y a quelques années, qui dure et qui continue et qui a été exacerbée pendant la crise de la COVID-19. Donc, Mustapha va répondre à quelques questions que je lui ai envoyées employés à distance. Oui, c'est ça la réalité actuellement. Donc, ben voilà, Mustapha va nous parler en premier de qui sont les travailleurs et travailleuses qui sont en lutte chez Dollarama.
Tous les travailleurs qui travaillent pour l'entrepôt de Dollarama, c'est vraiment les nouveaux arrivants. Beaucoup de monde, c'est leur premier travail au Québec. La blague là-bas dans le Dollarama, c'est Dollarama, c'est vraiment immigration au Québec, parce que c'est tout le monde, c'est qui passait au Québec, leur premier job, les entrepôts de Dollarama. Plus de travailleurs, c'est vraiment venir les Afriques de l'Ouest, du Sénégal, de Tchad, de Mali, de Guinée. À la même temps, il y a de beaucoup de personnes c'est qui venir de Haïti aussi changer maintenant. Il y a de beaucoup de demandes d'asile, c'est qui venir de l'Inde du Nord, qui travaillent là-bas, ou Érythrée, Nigeria. Beaucoup de personnes ne savent pas connaître leur droit de travail, mais à la même temps connaissent. Il y a le gros problème, c'est il y a la discrimination, il y a la, mais les agences de placement pas donner le travail, toujours juste donner le travail au Dollarama. Ça c'est le vraiment la fenêtre ou l'image de qui travaille là-bas. C'est tout le monde, c'est le nouveau arrivant, la demande d'asile, c'est qui perd la demande d'asile, attend la menace de déportation, ou c'est attend l'audience pour la demande d'asile. C'est vraiment le tout le monde là-bas, c'est avoir aussi la famille dans leur pays, son père pour un mettre la plainte ou pour lutter, parce que c'est aussi leur famille dans l'Haïti, dans le Guinée, aussi vivre par le salaire de les personnes qui travaillent à Dollarama.
On va continuer avec Mustapha Enaoué du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes dans les questions que je lui ai envoyées. Donc, quelles sont les conditions de travail dans les entrepôts et centres de distribution depuis le début de la crise sanitaire dans la grande région de Montréal? Il faut savoir que ces entrepôts sont là. Et c'est un peu les mêmes conditions qu'à l'époque, mais ça s'est empiré. Il va vous l'expliquer. Il va nous parler de mise à pied de certains travailleurs qui ont contesté. Il va nous parler des agences de placement qui forment la majorité des employés qui sont chez Dollarama. Il va nous parler aussi de la notion de service essentiel. On l'écoute.
Les conditions là-bas, au Dollarama, dans le centre de distribution et les entrepôts, au Dollarama, avoir 5 entrepôts, aussi le centre de distribution. Le centre de distribution, c'est qui emploie presque 1000 personnes dans 3 shifts, le matin, le soir, les nuits. C'est une grosse place avec 3 parties. Le Dollarama distribue 2 millions bois chaque semaine. Aussi maintenant, avoir le magasiné en ligne, toutes les 7 choses aussi distribuées dans le même centre de distribution. C'est juste pour donner un indice, c'est prenez 10 minutes pour marcher la porte du centre de distribution, tout le fin de centre de distribution. C'est un gros lieu de travail. La condition depuis la crise de COVID, c'est vraiment exaspéré la condition avant le COVID. C'est le problème avec le place comme Dollarama, c'est qui utilisait le travail très précaire, qui utilisait les agences de placement, ne veut pas payer le salaire, disons, payer pour la condition santé sécuritaire, disons, dans le lieu de travail, utiliser agence de placement pour downloading les responsabilités pour la santé et sécurité sur l'agence de placement, pour couper les côtés pour le patron, pour la compagnie. Sur les conditions, depuis le COVID, c'est vraiment dur. Il n'y a pas de ventilation propre dans le centre de distribution. Il n'y a pas d'espace de 2 mètres entre toutes les personnes qui travaillent là-bas. Vous avez une salle pour mettre tous les habits de travailleurs et travailleuses. C'est vraiment petit. So, tout le monde a besoin de passer dans cette salle. Aussi, il n'y a pas beaucoup de toilettes ou la station pour lever des mains, juste un. dans le centre de distribution. Ça prenait beaucoup de temps pour aller, pour lever des mains plusieurs fois dans les jours. Aussi parce que c'est le côté des sions. Pour le chaque travailleuse, c'est dur. Les travailleurs travailleuses paient pour prendre 10 minutes pour lever leurs mains. Aussi, Dollarama, pas donner les masques dans les centres de distribution, pas sanitiser le lieu de travail. So, nous sommes dans les centres de travail travailleurs immigrants, commence de tractage pour donner les travailleuses leurs droits, pour appeler la commission de normes de travail, pour mettre beaucoup de plaintes confidentielles. Il y a des changements dans le centre de distribution, mais nous travaillons avec deux travailleuses, c'est qui mise au pied par Dollarama. C'est parce que c'est le travailleur, c'est qui connaît presque à peu près 12 ans, travailleuse, c'est qui a contracté COVID. Dollarama dit rien pour tous les travailleurs travailleuses. Pas fermer le centre de distribution. C'est quand demandé par le superviseur pourquoi vous faites rien pour notre santé, notre vie, le prochain jour après le ce travailleur travaille pour 10 ans. Dollarama, j'étais lui, a dit à lui, pas retourner à cette place, appelez votre agence de placement. Il n'y a pas de notice de termination, c'est rien. C'est comme un chien. Le travailleur nous dit. Les autres personnes, c'est comme un formateur, c'est qui travaille 3 ans. Dollarama perd par toutes les plaintes contre Dollarama dans le système de commission de normes de travail. Si j'étais le seul formateur, son nom, job délicat, c'est quand beaucoup de travailleuses fâchées parce que c'est le superviseur demande à toutes les travailleuses mettre leur dîner dans le même frigo. Plus de 1000 personnes besoin de toucher le même frigo, la même place. Tout le monde, vraiment fâché, commence à manifester dans le lieu de travail. Le superviseur pensait c'est la 7 personnes job délicat, c'est qui organisait ça, mise au pied le prochain jour aussi, après 3 ans. Aussi avec le place de comme Dollarama, c'est avec de 100 personnes changées chaque semaine, nouveaux travailleurs. Les personnes qui connaissent pas, c'est qui travaille là-bas, c'est dans le même sens les problématiques avec le CHLSD. C'est quand la personne travaille pour l'agence de placement, a changé beaucoup le lieu de travail. Dans la pandémie, il y a le plus de risques. Toutes les personnes de travail là-bas habitent à Saint-Michel, à Montréal-Nord, et c'est vraiment la possibilité de transmission, c'est plus gros. C'est particulièrement dans la première période, la pandémie de COVID, c'est quand Dollarama. Un magasin ou une compagnie essentielle. So, tout le monde pas avoir la chance pour rester à la maison. C'est vraiment dur, tout le monde perd et Dollarama fait rien. Ça, c'est vraiment la condition à la base depuis la première partie de pandémie. Aussi, à la même temps, il n'y a pas le 2 mètres parce que c'est tout le monde besoin d'un passe-boire, travail dans le même espace. So, le 2 mètres, impossible pour respecter. Dollarama pas réduire le combien de travailleuses a besoin. Dollarama fait l'opposite, embaucher plus de travailleurs parce que il y a le plus de demandes parce que c'est Dollarama un service essentiel.
Les travailleurs et travailleuses de Dollarama ont d'ailleurs tenu une manifestation à Montréal jeudi dernier, plus particulièrement pour dénoncer la décision de la direction du géant montréalais du commerce au détail d'abolir le 2 août les primes de risque de 10% versées depuis mars dernier à ceux et celles qui travaillent dans les magasins, de même que la hausse de 3 $ du salaire horaire des travailleurs en entrepôt. Ces primes-là avaient été accordées en raison des risques associés à la COVID-19, comme on va le voir d'ailleurs dans la deuxième partie de l'entrevue avec Mustapha. Mais avant, on va faire une pause musicale. Cette semaine, on vous propose une sélection qui illustre la diversité et la vivacité de la scène hip-hop et rap un peu partout dans le monde. On commence donc avec le rappeur originaire de Gatineau, D-Track, et la pièce « Donne-moi du verrou » qui est tirée de l'album « Dieu est un Yankee » paru en 2019. Le star system québécois s'y fait copieusement varloper, à commencer par Véronique Loutier et Guillaume Le Métivierge, qu'on pourrait qualifier de Dollarama de la culture québécoise.
Des stars qui font du bacon, des stars qui rendent légumes, des stars sur toutes les postes qui prennent contrôle de ta cédule, des stars qui se dénudent sur une île aux Bermudes pour la prochaine édition de Sports Illustrated, des stars qui cuisinent, qui font des recettes vegan, des stars dans des véhicules Toyota Ford Prius, des stars qui vendent des bidules, des stars qui se bidonnent à chaque fois que je prends ma manette puis que je pitonne, des stars qui se vénèrent, des stars qui font du plein air, qui partent à la recherche de l'abominable homme des neiges, des stars plein les manches, des stars qui sont pompettes, des stars qui prennent contrôle de ton antenne. Hey, ma télé c'est une galaxie. Ma télé c'est une galaxie. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge. Des stars dans ton système, des stars du star system, des stars sorties du web, pis des stars full vintage, des stars dans ta cataracte, des stars adorables, une star de TVA devenue une star de Radio Can, des stars qui nous nourrissent, des stars qui font les touristes, qu'on accueille à bras ouverts comme des moines bouddhistes, des stars qui sont branchés, des stars qui sont one shape, qui ont les dents plus blanches que tout le mois de janvier, des stars qui font les acteurs, des stars qui font les farceurs, des galas de stars, des galas à tous les quarts d'heure, des stars qui sont big, des stars qui sont larges, des stars qui sont vides mais qui remplissent tout plein de salles. Ma télé c'est une galaxie. Ma télé c'est une galaxie. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge. Des stars qui placotent, des stars qui rapportent, des stars qui ont la cote, des stars qui viennent de la pop, des stars dans des lofts, des stars qui rénovent, des stars sur tous les postes, pis sur tous les télescopes, des stars qui sont des vedettes, des stars qui ont des amourettes, des stars qui se prennent contre leur ex, pis qui sèment la controverse, des stars qui show quiz, des touch showcase, des amas stars qui font des touch showbiz, des stars toutes les saisons, des stars qui ont raison, qui t'envoie chier au nom de la liberté d'expression, des stars qui sont in, des stars qui sont out, des stars has been qui prennent contrôle de ton couch. Ma télé c'est une galaxie. Ma télé c'est une galaxie. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge. Donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, donne-moi du verrou, pis du Guillaume le Métis Vierge.
On continue l'entrevue avec Mustapha Hennaoui du CTI. Il va nous parler de, ben, je voulais savoir c'était qui les patrons de Dollarama, quelles étaient leurs réponses depuis des années aux demandes de base des travailleurs-travailleuses de leurs entrepôts, de leurs chaînes. Il faut savoir que c'est la famille Rossi qui possède donc le petit empire Dollarama, mais aussi un certain Mitt Romney, sénateur républicain de l'Utah, qui est actionnaire minoritaire par le biais d'un fonds d'investissement. Et peut-être noter aussi que Mustapha va nous parler des primes COVID qu'ils ont réussi à avoir au niveau du salaire horaire. Il va souvent aussi parler du PPE. Il faut savoir que ça veut dire équipement de protection individuelle en français.
La propriété de Dollarama, c'est vraiment la famille de Rossi. C'est changé le père, les filles maintenant. Puis aussi, c'est depuis 2008, après Dollarama, aller au public dans le marché de bourse. Il y a l'investissement, gros investissement minoritaire par le hedge fund de Bain Capital, c'est le hedge fund américain de Mitt Romney, c'est le républicain, vraiment, il a acheté beaucoup de compagnies, des strips de compagnie, après vendre la compagnie, mise au pied beaucoup de travailleurs. C'est vraiment un hedge fund vulturistique. Mais le hedge fund de Mitt Romney, c'est juste un partenaire minoritaire. La famille, c'est qui le propriétaire de Dollarama, la famille de Rossi, c'est vraiment augmenter les richesses dans la dernière année. C'est maintenant la famille de Rossi, c'est la 8 richesse famille au Québec. À peu près 2,5 milliards de dollars. Aussi la 5e famille riche au Canada. C'est vraiment pas une petite compagnie, c'est vraiment une grosse compagnie comme Walmart, comme McDo, comme Couche-Tard. C'est maintenant avec 1300 magasins. Aussi, la famille de Rossi a acheté 300 magasins. Une compagnie s'appelle Dollar City, American Latin, particulièrement El Salvador, Guatemala, Honduras. C'est vraiment une compagnie multinationale. Ça, c'est qui le propriétaire de Dollarama. Et aussi, à la même temps, pas comme l'autre compagnie, c'est comme chez McDo, c'est qui utilisait un système de franchisee. Vraiment, Dollarama, le propriétaire, le chaque magasin de Dollarama, le médecin, so, contrôler tout le processus. Ça, c'est la famille de Dollarama, la réaction de Dollarama, toute la campagne et les crises, c'est vraiment à la même temps du côté. Premier, c'est vraiment perdre le travail d'organiser là-bas, c'est donner la prime de 2 dollars, donner les masques, donner les gants, l'augmentation de salaire dans le fin d'août. Il n'y a pas d'autre compagnie à la 7 size donner la prime pour le même temps. So, ça, c'est une chose nous sommes gagnés. Aussi, les PPE pour les travailleuses. Mais à la même temps, c'est Dollarama vraiment fâché. Mise au pied les travailleurs et travailleuses. Il y a le plus de réactions de notre campagne. Embaucher une compagnie de PR, s'appelle Pelican PR Firm, et dit dans le public, c'est nous sommes un bon employeur, donner tout le PPE, tout le monde, c'est vraiment content avec nous. Parce que il y a plusieurs groupes qui font la campagne contre Dollarama. Dans le côté, le magasiné, c'est qui perd pour entrer le Dollarama parce que il n'y a pas de PPE pour les travailleuses. Il n'y a pas de règles dans la première partie de la pandémie. So, pas juste nous, c'est organisé aussi, il y a des autres groupes. Ça, c'est les deux réponses par Dollarama.
On va terminer avec Mustapha en parlant des dernières actions des derniers mois de la campagne et quelle est la suite. Le 13 juin dernier, il y avait une manifestation d'une centaine de personnes à Montréal. Les artistes organisés autour de All Arts ont aussi organisé un rassemblement pour appuyer les travailleurs et travailleuses. On peut dire que Dollarama, c'est vraiment une des pires compagnies au Québec. C'est des sweatshops made in Québec. Aucun respect pour les travailleurs et travailleuses. On utilise les agences de placement. On ne les respecte pas dans le cadre de la COVID. Donc, Mustapha va conclure là-dessus aussi. Et on va suivre aux apatrides anonymes aussi. Qu'est-ce qui se passe avec la campagne et avec aussi le CTI?
Pour la campagne, notre dernière action, c'est vraiment... Nous avons deux conférences de presse avec les travailleurs, c'est qui mise au pied. Aussi, nous fait la manifestation en les mois de juin avec les travailleurs et travailleuses. Aussi avec les autres groupes Solidarité sans frontières au Parc Jarry. C'est vraiment plus ou moins 60 travailleurs et travailleuses. Aussi, nous faisons chaque semaine la sensibilisation, donner les masques, les jeux, des tracts avec les droits de travail pour mobiliser les gens pour participer avec nous. Aussi, c'est une autre action par un groupe de Some of Us. C'est une ONG, mais leur pétition a apporté 26 000 personnes. Dans la pandémie, c'est difficile d'organiser, mais nous avons fait la manifestation, nous avons fait la conférence de presse, aussi les tractages, aussi il y a l'autre groupe qui appuie nous. C'est comme Howl Arts aussi, on fait une lettre ouverte par l'artiste pour appuyer notre revendication. Ensuite, notre campagne l'a aidé pour faire le commencement de faire les actions publiques dans la fin de l'été. C'est avant la prime de salaire terminée, aussi à la même temps avant la deuxième vague de COVID. Vraiment pour protéger la vie des travailleuses. So, nous sommes en train de continuer la sensibilisation chaque semaine, chaque jeudi, mais en même temps continuer pour organiser les actions dans la fin de l'été. Aussi l'aider pour créer plus la coalition pour appuyer vraiment l'auto-gestion ou auto-organisation des travailleurs et travailleuses là-bas. Ça, c'est la plus importante stratégie pour nous, c'est parce que c'est vraiment leur lutte et nous sommes juste aidés leur organisation pour lutter pour la justice là-bas au Dollarama parce que c'est important contre toute l'exploitation systémique ici aujourd'hui au Québec.
Normalement, quand on est en direct en studio, quand on arrive à la citation raciste, on aime bien lire la citation et essayer ensuite de la faire deviner par nos collègues de l'émission qui sont à Choc live avec nous physiquement. Mais là, bon, je suis tout seul chez moi avec mon micro. Alors écoutez, je vais lire la citation et ce sera à vous, cher auditoire, d'essayer de deviner qui a bien pu dire une chose pareille. Un peu de mise en contexte tout d'abord, c'est le mois de la fierté à Montréal. C'est une édition 2020 un peu tristounette, plutôt virtuelle. Il n'y a pas la fameuse parade ou les spectacles au Parc des Faubourgs, mais c'est célébré quand même et un peu en écho avec l'actualité internationale. L'organisation de Fierté Montréal a décidé de mettre de l'avant une thématique sur le racisme cette année. Donc, il y a les programmes papier ou différents magazines où on peut lire des ministres, des élus, des officiels de sociétés publiques, par exemple Tourisme Montréal, des PDG de compagnies, de banques, etc., qui achètent de l'espace pour publier un mot d'appui à Fierté Montréal. On voit ça dans tous les festivals. La citation d'aujourd'hui, elle est dans ce contexte-là. C'était dans le dernier magazine Fugue et sûrement dans le programme officiel aussi. C'est pas vraiment une citation raciste. Enfin, vous allez comprendre. Alors, je vous lis le fameux extrait « Imaginez des violons ». On ouvre les guillemets. Cette année, Fierté Montréal met de l'avant la lutte contre le racisme, faisant écho aux événements de l'actualité des derniers mois. Cette lutte, nous la partageons pour avancer ensemble vers une société encore plus égalitaire et encore plus ouverte. Les guillemets sont fermés. Alors, cet extrait, ce statement antiraciste, c'est signé par qui? Roulement de tambour. Et oui, c'est signé par Simon Jolin Barrette avec la photo de sa face de ministre qui représente le gouvernement de François Legault. Alors, on imagine tous et toutes que ça doit être très sincère comme affirmation. Simon Jolin Barrette, nous te disons merci pour ton engagement indéfectible contre le racisme au Québec.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. Un gros merci à Simon pour son sens aiguisé de l'ironie. On va le retrouver d'ailleurs dans quelques minutes pour un survol des actualités françaises. Il se passe vraiment des choses étranges à Paris depuis que les autorités sanitaires ont décrété le déconfinement, qui se déroule de façon tout aussi chaotique que le confinement l'avait été. La gestion parisienne du port du masque fracasse littéralement les records de l'absurdité. Imaginez-vous donc que la ville a pris la brillante décision d'imposer le port du masque aux personnes de plus de 11 ans à l'extérieur dans certaines rues très fréquentées. Mais au-delà de l'absurdité ou du bien fondé de la mesure, ce qui frappe et choque, c'est le classisme et le racisme de la préfecture de Paris dans le choix des zones à risque. Le nombre de lieux dans les arrondissements et quartiers à population pauvre racisée est beaucoup plus élevé que dans les quartiers riches ou blancs. Tous les marchés des quartiers pauvres sont visés, pas ceux, évidemment, des quartiers riches. Par exemple, seulement dans le 18e arrondissement, on compte 22 lieux ou rues, dont tous les marchés, soit autant que dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 7e, 8e, 9e, 12e, 14e, 15e et 16e réunis. Paris, ville lumière, plutôt ville de misère. À toi, Simon.
Et oui, quelques nouvelles hexagonales. Je sais qu'on vous parle souvent de la France, mais ça reste un pays chaud du point de vue des migrations, donc pays à la fois très attractif comme destination, parce que pays riche, ancien empire colonial avec beaucoup de communautés, des anciennes colonies qui sont bien implantées en France, avec des entreprises, des organismes, des réseaux déjà établis parmi ces communautés culturelles. On est au cœur de l'Europe et en plus, c'est facile pour nous, aux apatrides, avec plein de sites d'information, comme entre autres la CIMADE ou Infomigrant, d'avoir accès à beaucoup de nouvelles françaises très terrain, très intéressantes. Lors de la dernière émission, on vous parlait des nouveaux ministres de Macron, plusieurs d'entre eux, des escrocs et ou agresseurs. Pour aujourd'hui, on va quitter les marbres et les dorures de l'Élysée ou de Matignon et avec trois nouvelles brèves, vraiment plus dans la réalité, la dure réalité des personnes migrantes en France. En premier, on s'en va vers le sud, dans les Alpes, à la frontière avec l'Italie. Il faut remonter à 2018, ça se passe à Mont-Genèvre, un genre de chemin Roxham alpin, donc un itinéraire souvent emprunté, très fréquenté par des migrants qui veulent entrer en France. Un jeune Malien mineur, on ne connaît pas son nom, il est contrôlé à la frontière, il va se frotter à deux agents frontaliers, deux agents de la police aux frontières, la PAF. Je vais essayer de vous résumer l'histoire du mieux que je peux. Les agents de la PAF vont être odieux avec lui, on va lui soutirer de l'argent pour une amende ou un privilège un peu imaginaire. Évidemment, l'argent va disparaître, ou en tout cas en bonne partie. Bref, le jeune Malien est conscient qu'il s'est fait arnaquer par les deux agents frontaliers. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il l'a bien réalisé. Il va recroiser plus tard les deux mêmes agents, mais cette fois-ci, il prend l'initiative de les confronter et surtout, il a l'excellent réflexe de démarrer l'enregistrement audio de son téléphone, probablement le portable dans la poche. La conversation et les coups qu'il va recevoir à ce moment-là vont être enregistrés. Conversation dont on peut lire des extraits horribles dans certains articles, des insultes racistes, des menaces, bref, de la grande police frontalière. Bon, c'est pas mal plus tard, des semaines ou des mois, alors qu'il est en attente de statut en France, une fois pris en charge par des associations, que le jeune Malien va porter plainte officiellement contre les deux agents et pour une fois, pour la première fois, je pense, la cause d'un migrant va être entendue. Faut dire que la plainte tombait à point nommé, si je peux dire, parce que ça faisait des années qu'il y avait des histoires d'argent volé aux migrants par des agents du gouvernement français, des histoires d'extorsion, de pots de vin, souvent des centaines d'euros, donc ce qui représente une fortune pour les migrants. Les associations sonnaient l'alarme depuis longtemps, elles accumulaient les témoignages depuis des années, mais bon, en général, il n'y avait pas de preuves, donc ça ne servait à rien de porter plainte, ça se rendait nulle part. Mais là, grâce à ce jeune Malien qui a eu l'excellent réflexe d'enregistrer son interaction avec les deux agents, enregistrement qui concorde parfaitement avec tous les témoignages recueillis depuis des années, donc grâce à son courage de porter plainte et de survivre dans ce dédale juridique français qui n'est pas des plus simples et des plus rapides, ben deux pourris viennent d'être condamnés à la prison. La décision a été rendue en juillet dernier, en juillet 2020. C'est pas des peines énormes, c'est respectivement un an et demi et deux ans, assortis d'amendes et d'interdiction de pratiquer dans la fonction publique. Mais surtout, ça fait jurisprudence, ça ouvre enfin une brèche et on va peut-être faire en sorte que la PAF, là, la police aux frontières, soit un peu mieux encadrée et qu'on va peut-être prendre enfin au sérieux les plaintes des pauvres migrants qui se font arnaquer par la PAF. On en vient quasiment à souhaiter un genre de MeToo des migrants. Dans ce dossier-là, il faut souligner le travail de deux associations en particulier, Tous Migrants et ANAFE, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, qui travaillent très très fort depuis des années. Elles sont vraiment très nombreuses en France, ces associations qui tentent au meilleur de leurs moyens de défendre les droits des personnes migrantes. Ça nous mène à notre deuxième nouvelle française. On s'en va à l'extrémité, complètement dans le nord de la France. Il y a 13 associations de la région de Calais qui ont décidé de porter la cause des migrants devant la Défenseure des droits de l'ONU et de saisir pas moins de 7 rapporteurs spéciaux de l'ONU. Pour mettre rapidement en contexte, il y a des campements qui allaient depuis des années et des années, des migrants qui veulent traverser la Manche par différents moyens pour rejoindre le Royaume-Uni. C'est pas nouveau que les conditions de vie dans ces camps-là soient très mauvaises, que ce soit au point de vue sanitaire, le traitement par la police, les démantèlements continuels. Il y a aussi parfois des milices néo-fascistes qui viennent faire leur tour. Par contre, ce qui a motivé les associations à prendre les grands moyens et à se tourner vers l'ONU, en gros, c'est une combinaison de deux facteurs. Donc, premièrement, la levée de l'état d'urgence sanitaire COVID en France, c'est tout récent, qui fait en sorte que tout ce qui est eau, douche, vivres, médicaments, il y a comme une coupure nette d'approvisionnement et ça rend la situation intenable. Et deuxièmement, la nomination au poste de ministre de l'Intérieur par Macron de Gérard Darmanin. On disait il y a deux semaines qu'on vous parlerait souvent de lui, ben voilà, déjà. Donc, depuis que Darmanin est là, la répression et les expulsions ont beaucoup augmenté. On qualifie les évacuations récentes de particulièrement brutales, plus même qu'avant. On grillage les sites une fois les gens dispersés. On parle non seulement, comme je le disais tantôt, de violations de droits vraiment de base, comme le droit à l'eau potable, du droit à l'assainissement et à la santé, mais aussi de violences physiques, de confiscation d'effets personnels, d'humiliations de toutes sortes. Bref, dossier à suivre que cette plainte vers l'ONU, ça va nous permettre de juger du réel pouvoir contraignant de cette instance-là. Est-ce que c'est encore possible de remettre un État à sa place? Comment la France va recevoir les éventuelles condamnations, ou en tout cas les recommandations de la Défenseure des droits de l'ONU? Est-ce qu'au-delà des rapports, il y aurait des sanctions ou des changements concrets? Toutes des questions qui sont quand même assez fondamentales, pas juste pour la France, mais pour plein d'autres pays. Troisième et dernière nouvelle française, à Paris cette fois, encore une histoire de campement de migrants démantelés. Le contexte, c'est quand même assez semblable à ce qui se passe à Calais, mais au lieu d'être en plein champ, on est au cœur d'une des plus grandes villes du monde. Des camps de migrants souvent coincés entre des autoroutes, sous des viaducs, bref, dans des environnements vraiment pas salubres, des environnements, disons-le, invivables. Donc là aussi, à Paris, comme à Calais et ailleurs, c'est la valse perpétuelle des évacuations des camps par la police. Et étant donné que les ressources d'hébergement pour migrants sont vraiment pas adaptées, ben c'est toujours suivi très rapidement d'une réinstallation presque immédiate des campements de fortune. Des fois au même endroit, des fois un peu plus loin, bref, là où il y a un peu d'espace plus ou moins abandonné. À Paris, ce sont des gros camps, là, des centaines de personnes, ça peut aller jusqu'à 1500, 2000 personnes, en général dans le nord de la ville, soit à l'intérieur de Paris, soit à la périphérie immédiate. Actuellement, ça se passe à Aubervilliers, quartier juste à l'extérieur de la ville, au nord du périphérique, tout près de Saint-Denis. Le dernier campement qui s'est formé est entre et sous des bretelles de l'autoroute A1. C'est vraiment pas un endroit sécuritaire. Il n'y a même pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette, évidemment. Pour sortir ou accéder au camp, les migrants ou les bénévoles qui veulent leur apporter de l'aide ou des denrées doivent traverser à pied des autoroutes, ce qui rend les choses très difficiles. La prochaine évacuation, vu que ça coûte cher comme intervention et qu'à chaque fois on veut frapper le plus fort possible et faire un beau spectacle pour le Figaro, ben en général, on attend qu'on en soit vraiment rendu à saturation. Donc si c'est pas déjà fait au moment où je vous parle, ce sera dans quelques jours. Malgré tout, la police se prive pas d'aller patrouiller sur les lieux tous les jours et laisser planer la menace que ça se fasse le lendemain matin très tôt. Ça se fait d'ailleurs toujours vers les 6 heures du matin, question de surprendre tout le monde en train de dormir. Mais laisser planer cette menace que ça va arriver le lendemain, même si ça n'arrive pas, ben c'est un genre de torture psychologique qui est aussi inutile que nuisible. Ça rend fou. Déjà camper, imaginez dans un échangeur d'autoroute. Bref, et question d'en rajouter une couche, le budget 2020 de Macron prévoit d'arrêter de financer la création de nouvelles places en hébergement pour personnes migrantes. On va s'en tenir au nombre de places existantes, malgré que le nombre de migrants augmente chaque année. La cadence était déjà insuffisante, fait que je ne sais pas trop comment qualifier ça, là, pensée magique, populisme, aveuglement. Bref, vive la France.
Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. S'il est depuis des siècles, on fait tourner le manège. On voit pas la recette de nos empreintes dans la neige. Ils ont cassé la chaîne pour pas que l'on se rappelle. Faut pas qu'on se souvienne que nos aïeux étaient balèzes. Nos histoires authentiques en détail dans leurs gros livres. Pour que l'Occident vive toujours ce foie, je se clean. Et ce pays produit des tabous et des phobies. Dans la chronologie de toutes ces colonies. Les écoles nous manquent mal parce qu'elles veulent pas le scandale. Cherche à faire du rentable mais la version est bancale. On efface nos histoires, on garde au pire des hommages. Pour rendre plus honorable tout un empire colonial. Tous nos héros s'effacent, font pas partie du débat. Faut remplir nos mentales avec des âmes et des voix. Qu'on cite Abdelkader, Cabral ou bien Makeba. Harriet Tubman, Césaire ou Keïta Sundiata. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. On laissera quoi aux gosses à part une vie de start-up. Des cagnottes, des hold-up, des ragots et des carottes. Aucune bonne intention, pas de projet de société. Cherche pas à protéger, cherche pas à s'autogérer. Tout le monde s'est fait léser, on aimerait se référer aux frères et sœurs passés qui auraient pu nous léguer. Des rêves et des échos, de l'espoir et du bon sens. Tous nos acquis sociaux et nos rêves d'indépendance. On sait rien de nos comptes, des combats qui les animent. Africains immigrés et ouvriers pactisés. Quand ils se trouvaient contre la face de l'impérialisme. Et pour s'organiser, ils devaient fraterniser. Tout ça a disparu pour qu'on ne sache pas le faire. Nous on se tire dessus mais on était frères hier. Fifi c'est triste mais il se passe rien de bien. Si tu récites un récit qui n'est pas bien le tien. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Amilcar Cabral, France Fanon, Tina Sila, Mohamed Maïga, Malcolm X, Paulette Nardal, Olympe de Gouche, Ruben Enyobé, Myriam Makeba, Kwame Touré, Sekou Touré, Adolfo Kaminski, Ali Lapointe, Che Guevara, Ho Chi Minh, Vo Nguyen, Diaz, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Angela Davis, Keïta Sundiata, Emir Abdelkader, Marcus Garvey, Rosa Luxembourg, Solitude, Cheikh Anta Diop, Bobby Sands, Aimé Césaire, Rosa Parks, Léon Gontran Damas, Francis Janson, Henri Alec, Jean-Jacques Dessalines, Jean-Marie Chiba, ou Ariette Topman, Fid Milayo, Ransom Kouti, Assata Chakour, Germaine Tillon, toutes les anonymes, tous les anonymes, les mères, les pères, les chers, les sages, les martyrs, les générations sacrifiées.
Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout.
On vient d'entendre le rappeur français d'origine algérienne Rossé, de son vrai nom José Youssef Lamine Kaminski, avec la pièce « Tenir debout » de l'album du même nom paru en juillet dernier, son cinquième en carrière. Deux nouvelles concernant les services de police de deux villes canadiennes dans la foulée des mouvements antiracistes en Amérique du Nord qui appellent les gouvernements à retirer les financements de la police. D'abord, fin juillet, le Conseil de ville de Vancouver a adopté un amendement qui vise à retirer des mains de la police les urgences sociales et en santé mentale. L'amendement propose, et je cite, « un plan, un calendrier et un budget pour déprioriser les services de police en réponse à la santé mentale, au travail du sexe, à l'itinérance et à la consommation de substances et à donner la priorité au financement des groupes communautaires, des sociétés à but non lucratif et d'autres ayant l'expérience et la formation nécessaires pour mettre en œuvre des initiatives de réduction des risques et de sécurité dans ces domaines. » Fin de la citation. La motion amendée crée aussi une consultation perpétuelle auprès des personnes marginalisées et des groupes communautaires spécialisés pour savoir comment la Ville peut soutenir les services communautaires existants et futurs. Et à la mi-juillet, c'était au tour de la Commission des services de police de Toronto d'adopter à l'unanimité plus de 80 recommandations sur les façons de réformer la police. Les réformes proposées concernent principalement la lutte contre le racisme systémique et les interventions d'urgence auprès de personnes en détresse, mais aussi la formation, la transparence et la responsabilisation au sein de la police. Mais pour plusieurs habitants et habitantes de la ville, les bonnes intentions de la police torontoise ne suffisent pas. Plusieurs jugent que les réformes vont pas assez vite ou pas assez loin et accusent la commission de faire la sourde oreille et de pas comprendre les aspirations de la communauté noire en particulier. Les recommandations portent pas assez sur l'impunité des policiers qui sont fautifs dans leur travail et sur le manque de responsabilisation dans le service de police. Certaines personnes exigent aussi, évidemment, la réduction du financement du service de police parce que l'argent serait mieux dépensé dans des services de santé mentale dans la communauté, à l'image de ce qu'a adopté la ville de Vancouver, par exemple. Une mesure qui fait beaucoup réagir, c'est l'initiative d'équiper les policiers d'une caméra sur leur uniforme. En effet, la ville prévoit l'achat de 2350 caméras d'intervention, rien de moins, que les policiers doivent normalement le porter dès l'automne prochain pour la somme de 34 millions de dollars sur 5 ans. Selon les détracteurs, c'est beaucoup trop coûteux et de telles caméras permettront pas aux policiers d'être plus transparents. Il y a aussi le processus de consultation qui est critiqué parce que la commission est passée à côté de l'essentiel du problème, c'est-à-dire la lutte contre le racisme systémique. Il y a la commission ontarienne des droits de la personne qui a pour sa part regretté de ne pas avoir été consultée et aurait préféré que les réformes soient beaucoup plus indépendantes, que le processus de consultation soit aussi plus transparent et que les communautés noires soient davantage consultées. Il y a également le groupe Empowerment Council qui défend les personnes en situation de crise, qui ajoute que les réformes sur la formation des policiers en santé mentale sont toujours déficientes et que rien de concret a été proposé en matière de ressources et de financement à ce sujet-là. Bref, il reste encore beaucoup de chemin à faire. On va maintenant rejoindre Mathieu pour d'autres actualités canadiennes.
Aujourd'hui, je vous parle de deux sujets reliés à la politique fédérale, politique nationale du Canada. En premier lieu, un suivi sur un sujet dont je vous ai parlé il y a 4 semaines à ma dernière chronique, qui était en lien avec un article du média en ligne de gauche Ricochet, qui parlait entre autres des réinstallations, du parrainage et des difficultés en temps de pandémie. Ben, Radio-Canada a repris le sujet à la mi-août avec un article assez intéressant qui nous met un peu plus à jour sur les enjeux administratifs, je dirais, par rapport à ça. Donc, on dit d'emblée que l'arrivée au pays de milliers de réfugiés parrainés par des Canadiens a été suspendue à raison des restrictions de voyage imposées en réponse à la pandémie. Ça, on le savait. Ce qu'on apprend, c'est que du côté du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, on s'attendait à recevoir 21 000 réfugiés parrainés dans le secteur privé cette année. Ça, c'est un bureau relié au ministère de l'Immigration. Donc, ce bureau précise qu'environ 2 500 d'entre eux sont arrivés au Canada entre le mois de janvier et mai, entre les mois de janvier et mai 2020. La quasi-totalité, vous le devinez, a rejoint le pays avant la fermeture des frontières. Évidemment, ces délais supplémentaires s'ajoutent à un système de parrainage lourdement éprouvé par des procédures administratives qui peuvent s'étendre sur une période de 2-3 ans en temps normal. On le répète, beaucoup de gens qui auraient pu arriver durant cette période se retrouvent dans des situations assez pénibles. Évidemment, les gens vivent non seulement avec l'incertitude de savoir s'ils vont finalement pouvoir arriver au Canada, mais aussi avec l'incertitude de savoir s'ils vont s'en sortir vis-à-vis de la pandémie à l'endroit où ils sont ou actuellement. Donc, le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada indique toutefois que la réinstallation ne reprendra complètement que lorsque les conditions le permettront. Ça reste vague et évidemment, ça peut être assez compliqué. La porte-parole, donc, croit que la réinstallation des réfugiés ne retrouvera pas un rythme normal avant plusieurs mois. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur les personnes qui avaient déjà reçu leur visa de résidence permanente, parce que quand les gens arrivent, ils ont la résidence permanente, mais même ceux-là ne sont pas arrivés. Donc, la porte-parole craint cependant que certains documents de voyage n'expirent avant que la procédure de parrainage ait été menée à terme. C'est la crainte de beaucoup de groupes et d'individus aussi. Donc, en moyenne, on dit que c'est au moins 2 à 3 ans, mais dans les faits, c'est souvent 4 ans entre le début des procédures et l'arrivée de la personne au Canada avec sa résidence permanente garantie quand il est sur les lieux. En bonus, sur le même sujet, à l'émission Des hôtels le dimanche sur les ondes de Radio-Canada le 16 août dernier, un reportage audio qui s'appelait « La pandémie changera-t-elle la migration ?» On dit dans le résumé ceci, avec la COVID-19 et la fermeture des frontières, c'est tout le système migratoire international qui est ébranlé. Comment évoluera-t-il? Les craintes sanitaires et la montée du chômage accentueront-elles le mouvement de fermeture des frontières déjà observé depuis plusieurs années dans beaucoup de pays, avec entre autres des gouvernements de droite? Donc, la journaliste va parler de ce qui se passe un peu ici et ailleurs dans le monde par rapport à ces enjeux de migration. Donc, si vous voulez le réécouter, c'est disponible sur le site web de Radio-Canada de la première chaîne. Sinon, mon deuxième sujet, qui est passé relativement inaperçu, on peut dire très inaperçu, un cas flagrant de racisme systémique dans la machine fédérale, dans l'appareil fédéral, à la Défense nationale, ça a été publié au mois de juillet. Donc, je vous raconte l'histoire. Cette affaire remonte à 2016. Un superviseur travaillant pour le ministère de la Défense nationale à Ottawa a affiché dans la cuisine du bureau une image montrant une camionnette blanche destinée à ressembler à une publicité pour une entreprise de déménagement de Détroit qui existait déjà. Sauf que le logo comportait des caricatures de 2 hommes noirs tenant des lances et un slogan offensif contenant les mots « nègre » et « marde ». Ça, c'est l'affiche modifiée par ce subtil superviseur. Andrea Kenny, une employée noire, a déposé une plainte au printemps 2017. Elle raconte, on ouvre les guillemets, Nous n'étions que 3 personnes sur tout l'étage à faire partie des minorités visibles. Alors, le fait que mon supérieur immédiat affiche une telle image était du mépris pour les employés dans cet environnement. Elle dit cette plainte au patron du supérieur en question et celui-ci a été contraint à s'excuser auprès des employés noirs du bureau. Mais rebelote quelques mois plus tard, Andrea Kenny a déposé un grief officiel au ministère de la Défense, vraiment un grief officiel cette fois-ci, après que son superviseur, le même, a affiché une autre image offensante dans la cuisine du bureau, c'est-à-dire une blague raciste faisant référence aux Juifs et à Hitler. Cette plainte de Mme Kenny, alléguant une discrimination raciale ainsi qu'un racisme systémique, a été rejetée à plusieurs reprises dans des décisions rendues par le mécanisme interne de règlement des griefs du ministère de la Défense. Le syndicat, l'Union des employés de la Défense nationale, soutient que les griefs liés à la discrimination raciale étaient systématiquement rejetés dans les dernières années. Mme Kenny attend une date d'audience pour l'appel qu'elle a interjeté à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique fédérale. Selon l'Alliance de la fonction publique du Canada, un autre syndicat, un arriéré de dossier non traité à la Commission fait en sorte que le processus pourrait prendre encore quelques années. Et quel est le résultat de ces délais? 70% des employés choisissent de résoudre les problèmes liés à la discrimination au milieu de travail par la médiation. Cette option inclut des clauses de confidentialité qui masquent l'ampleur du problème racial au sein du service public selon l'Alliance. Après que CBC a commencé à enquêter sur cette affaire au ministère de la Défense, le ministre a décidé tout d'un coup d'intervenir, de sortir de son mutisme. Je le cite, c'est Harjit Sajjan, ministre de la Défense, « Cette sérieuse affaire à Ottawa vient d'être portée à mon attention. J'ai demandé qu'une enquête approfondie soit menée immédiatement et des mesures appropriées seront prises une fois terminées. » La CBC indique que le superviseur qui a affiché les images a été suspendu par son employeur. On ignore toutefois s'il reçoit toujours son salaire. Dans une déclaration, le ministère de la Défense et les Forces armées canadiennes disent « Nous reconnaissons que nous devons en faire plus pour prévenir et punir les comportements haineux dans nos rangs et nos équipes. Hein? » Rien de moins. Le ministre Sajjan a assuré que l'enquête allait s'étendre au-delà de la pose de l'affiche, donc de l'événement précis, et s'intéresser de près à la procédure de règlement de grief qui a rejeté la plainte et aussi à la question plus générale du racisme systémique. Donc, après 4 ans du début de l'affaire, Andrea Kenny dit avoir payé un gros prix pour s'être levé et avoir dénoncé le racisme. Je la cite, « À partir du moment où j'ai déposé ma plainte, les représailles ont commencé. Car son superviseur a pu rester en poste et il a été autorisé à procéder à l'évaluation de ses performances au printemps 2017. » Mme Kenny affirme que son évaluation effectuée en 2017 contrastait avec les précédentes évaluations de performance qui étaient positives et qu'elle était considérée maintenant comme une fautrice de trouble et ce malgré 25 ans passés au sein du ministère. On souligne aussi qu'en vertu des conditions liées à la procédure de réclamation, de plainte, Mme Kenny dit être tenue à la confidentialité concernant certaines informations, dont le nom de la personne qui a posé l'affiche, donc on ne sait toujours pas son nom. Je la cite en terminant, « J'espère que quelque chose de bon en ressortira. Si ce n'est pour moi, pour quelqu'un d'autre, souhaite-t-elle. Car Mme Kenny a un nouvel emploi au sein de la fonction publique, mais elle demeure résolue à mener à bien cette affaire. » Voilà donc ce qui se passe, entre autres, dans la fonction publique fédérale dans le beau Canada.
C'est le retour de notre traditionnel calendrier antiraciste. Cette semaine, je vous suggère encore du contenu en ligne, mais aussi une déambulation dans le Vieux-Montréal sous le thème du colonialisme et de l'esclavage. En effet, depuis maintenant 3 ans, Rito Joseph propose des tours guidés axés sur l'histoire du colonialisme et de l'esclavage dans la métropole. D'une durée de 90 minutes, les séances permettent de revisiter de nombreux lieux et monuments du Vieux-Montréal sous un nouveau point de vue, celui des esclaves noirs qui s'y trouvaient entre le 17e et le 19e siècle. Lieux d'exécution, plaques commémoratives, statues de Marguerite Bourgeois sont quelques-uns des nombreux endroits qu'on peut découvrir pendant la visite, qui est offerte aussi bien en français qu'en anglais. Rito Joseph est un passionné d'histoire et a fondé Cham Entertainment, une entreprise qui vise à faire connaître la culture et l'histoire afro-descendante par le biais de présentations et d'ateliers. En bon autodidacte, Rito Joseph récolte des informations qui composent le contenu de ses visites auprès des archives de la Bibliothèque nationale, mais aussi dans des livres d'histoire. Une de ses autrices de prédilection est Afua Cooper, professeure et poétesse canadienne de descendance jamaïcaine qui a complété son doctorat en histoire afro-canadienne, plus précisément sur l'esclavage et son abolition, ainsi que sur l'histoire des femmes noires au Canada. La visite aborde aussi, les relations entre les colons français et les populations autochtones. D'ailleurs, Rito Joseph souligne que, j'ouvre les guillemets, l'histoire des Premières Nations est intimement liée à celle des Afro-descendants, dans la mesure où leurs points de vue ont carrément été effacés des enseignements. Fermez les guillemets. Ces tours guidés n'ont jamais été aussi populaires que cette année. Le groupe de 30 personnes maximum est souvent complet. Rito Joseph explique que cette popularité-là est due au fait qu'on parle beaucoup de l'esclavage aux États-Unis et en Europe, mais assez peu à l'échelle locale, mais aussi par la montée cet été du mouvement Black Lives Matter, évidemment. Selon M. Joseph, toujours, les gens ont soif de savoir et sont maintenant prêts à connaître les faits. Je cite, « Dans l'imaginaire collectif québécois, on pense qu'il n'y avait pas de Noirs à Montréal avant les années 60. Pourtant, il y en a depuis 300 ans. » Fermez les guillemets. Les tours devraient se poursuivre en septembre. Pour l'horaire et les tarifs des visites, on peut consulter la page Facebook de Rito Joseph, facebook.com/RitoJosephM. On mettra aussi la page sur notre page Facebook des Apatrides. Comme la grande majorité des événements publics extérieurs, Cinéma sous les étoiles a dû annuler leur série de projections de documentaires dans les parcs de la ville cet été. En revanche, l'équipe de Funambule Média a décidé d'organiser une formule dite « pour apporter ». Donc, du 28 juillet au 24 septembre, vous pouvez visionner 12 longs-métrages sur les plateformes de TV5, à la fois le site web et les applications mobiles et télévision connectées, ainsi que la compétition de 24 courts-métrages qui, elle, sera hébergée sur la plateforme de la Fabrique culturelle jusqu'au 30 août. Du 28 juillet au 30 août, un nouveau documentaire par semaine a été rendu disponible, mais à partir du 31 août, deux documentaires vont s'ajouter de manière hebdomadaire sur les plateformes de la chaîne. Tous les longs-métrages seront disponibles gratuitement pendant 72 heures. Les films présentés sont toujours suivis d'une discussion en direct avec les cinéastes et des spécialistes des enjeux abordés, le tout sur la page Facebook du Cinéma sous les étoiles, et ce, après la période de diffusion de 72 heures pour chaque film. Le Cinéma sous les étoiles nous invite à s'installer sur notre balcon ou dans notre cour, histoire qu'il y ait des étoiles pour vrai, et à leur envoyer même les photos de leur cinéma en plein air maison. Toujours ancré dans l'actualité nationale et internationale, la programmation du cinéma sous les étoiles aborde des grands enjeux actuels, c'est-à-dire colonialisme et racisme, environnement, féminisme, lutte sociale et lutte de classe, démocratie, néolibéralisme, intelligence artificielle et vie privée. Par exemple, du 14 au 17 septembre, vous pouvez voir « La trahison d'Haïti » d'Hélène Brière qui révèle comment le Canada, autrefois considéré par les Haïtiens comme un partenaire constructif, a conspiré avec les États-Unis et la France pour renverser le gouvernement démocratiquement élu en Haïti. Ou encore, du 21 au 24 septembre, c'est deux films canadiens réalisés par des femmes autochtones qui sont présentés, soit « Nous, nous lèverons » de Tasha Hubbard et « Jordan River Anderson, le messager » d'Analys Obomsawin, qui traitent tous les deux de racisme systémique envers les Premières Nations au Canada dans le système judiciaire. Vous pouvez consulter la programmation complète au cinemasousleséloiles.org. Je répète, cinemasousleséloiles.org. Bon visionnement! L'émission tire malheureusement à sa fin. Si vous nous écoutez en direct, on vous rappelle que vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et nous écrire à apatridesanonymes@commercialresiste.ca, par exemple si vous avez du contenu à nous suggérer. J'en profite pour remercier mes deux comparses Mathieu et Simon, ainsi que Mustapha Hanaway pour nous avoir accordé une entrevue. Comme vous le savez sûrement, à la mi-août, le gouvernement fédéral a annoncé un programme pan-canadien de régularisation temporaire pour les demandeurs d'asile ayant offert des soins au plus fort de la pandémie de la COVID-19. En revanche, toutes les catégories d'emplois ne sont pas visées. On parle uniquement des demandeurs ayant donné directement des soins aux patients et patientes, tels que les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les aides-infirmières, les aides-soignants ou encore les aides de service. Ces demandeurs d'asile devront avoir travaillé dans des établissements de santé comme les CHSLD, les hôpitaux ou encore les résidences privées. Les travailleurs ici des agences de placement sont également concernés, tout comme ceux effectuant des soins à domicile. Il y a évidemment plusieurs organisations qui dénoncent le fait que le gouvernement Trudeau ait reculé sur l'idée de régulariser aussi d'autres travailleurs jugés essentiels, comme les gardiens de sécurité ou les préposés à l'entretien dans les CHSLD. Ottawa a dû revenir sur cette intention après plusieurs semaines difficiles de négociations pour trouver un terrain d'entente avec le gouvernement Legault, qui s'est opposé en coulisses à une telle ouverture. Bravo François Legault, t'es vraiment un champion de l'inclusion. Mais d'un autre côté, le gouvernement Legault ne fait pas mieux. Comme Simon nous en a parlé à la dernière émission, la Cour fédérale a jugé en juillet que l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis était inconstitutionnelle. Selon la Cour, là, pour rappel, le virage sécuritaire opéré par Washington depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, y compris la détention à grande échelle des personnes migrantes, ne permet plus de considérer les États-Unis comme un pays sûr. Eh bien, la semaine dernière, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a annoncé que le gouvernement fédéral allait faire appel de la décision parce que les conclusions du jugement contiendraient des erreurs de fait et de droit. Eh bien, bravo Justin Trudeau, t'es un champion de la compassion. Sur ce, on se laisse avec la rappeuse palestinienne Safa Hatot et la pièce « Bit Arsh Fehalle ». Bonne écoute et on se retrouve dans deux semaines.
تتحرش فيها ليه عشانها لابسه ميني تتحرش فيها ليه عشانها محجب ومش حاطه زيني تتحرش فيها ليه مخصنيش هو قال يا بين اتنيني تتحرش فيها ليه تصرفاتها مش عجبتني يا اخي عمره لا عجبك اهتم بادبك اح خلي غريزتك عزيزتك بالخزاني سكر عليها تا نعرف نعيش نتيجه حسيتك اشكر حشيش والله ما فيش عراسي ريش لاني كان نتفت من غباك بدوش تعلم امشي اسبح اركض اضحك وانا امان ما معيش الكيلو اليوم بكلف فيش حدا بيسلم باخد لي مش اله وبعدين بروح بخلف بخاف عليها وما بخاف عدمنا يتلف بغتب شرفنا بنكر بيه شرفها بحلف تتحرش فيها ليه عشانها لابسه ميني تتحرش فيها ليه عشانها محجبه ومش حاطه زيني تتحرش فيها ليه مخصنيش هو قال يا بين تريني تتحرش فيها ليه تصرفاتها مش عجبتني تتحرش فيها ليه عشانها لابسه ميني تتحرش فيها ليه عشانها محجبه مش حاطه زيني تتحرش فيها ليه عشانكم ما محين ايه تتحرش فيها ليه تتحرش فيها ليه انا زي اخوك سمعتك كتير طب جميل بس مش اشي عم بصير غير انه العكس هو بقصى المصير احكي قوم دافع تسمعش غير مهيق الحمير وكلتك عطيتك اسمك مكانتك تتباهى الزلمه معرفتش غير تزرع وتشقق وتشكل بقلبي حلمي ما يروحش تفكيرك لبعيد يا سعيد انا بعرفك امي اقرا طمي جرب قرب شوف بطخ عليك سمي كل وحده همشي مرحله اتعرضت انتو بتلوموها زيلي ولا بحياتها ضرطت خلص حبيبتي شبرت لعبه خلصت واللي بيقدم عليكي يحسب شرايينه كلها اتخدرت تتحرش فيها ليه عشان هلبسي ميني تتحرش فيها ليه عشانها محجب ومش حاطه زيني تتحرش فيها ليه مخصنيش هو قال يا بين تليني تتحرش فيها ليه تصرفاتها مش عجبتني تتحرش فيها ليه عشانها لابسه ميني تتحرش فيها ليه عشانها محجب ومش حاطه زيني تتحرش فيها ليه عشانكم ما محين ايه